VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du jeudi 21 avril 2016. Au sommaire ce soir...
Côte d'Ivoire, la Cour suprême rejette le pourvoi en cassation de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Son procès pour crime contre l'humanité aura donc lieu.
Au Mali, Anne Sardine revendique l'enlèvement de 3 employés des étrangers de la Croix-Rouge.
Au Tchad, l'opposition rejette d'avance une victoire au premier tour du président Idriss Déby, menaçant de former un gouvernement parallèle.
Cette décision intervient 24 heures après qu'ils aient retiré leurs délégués dans le processus du recensement des résultats des procès-verbaux et du décompte des voix.
Les États-Unis auront désormais l'effigie d'une ancienne esclave, Harriet Tubman, sur les billets de 20 dollars. Nous parlerons de la portée historique d'une telle mesure.
Fin du sommet de Riyad, Barack Obama réaffirme son soutien à la défense de ses alliés du Golfe.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Nuit de violence au Burundi. Selon l'armée et l'administration, au moins 3 personnes, dont un officier de l'armée, ont été tuées hier soir à Bujumbura et dans la province de Bururi, dans le sud du pays. Les motifs de l'assassinat du colonel restent inconnus. Le point sur place avec Christophe Nkurunziza.
Devant la maison de feu colonel Emmanuel Buzuona, assise au quartier Bukirasazi de la zone Kinama au nord de Bujumbura, des voisins sont en deuil. Ce colonel de l'armée burundaise a été tué mercredi soir par des hommes armés alors qu'il rentrait chez lui. Les témoignages des habitants de Bukirasazi affirment qu'il a été abattu par des gens armés alors qu'il revenait d'une station faire le plein d'essence de sa moto. Le porte-parole de l'armée, le colonel Gaspard Waratuza, affirme que les enquêtes ont commencé pour identifier les criminels. Gaspard Waratuza indique qu'il y a 5 mois, il était en mission dans une école appelée Staff College de Dar es Salaam en Tanzanie. Feu colonel Emmanuel Buzuona attendait calmement une nouvelle affectation. Par ailleurs, sur les collines Kivumu et Mushishima, en commune de Mugamba, province de Bururi, au sud du Burundi, 2 personnes ont été tuées mercredi soir dans un bistrot, selon le gouverneur Christian Nkurunziza. Mais d'autres sources parlent de 4 personnes tuées, dont un enseignant d'une école primaire. Depuis plusieurs jours, des assassinats et tueries sont observés dans plusieurs localités du Burundi, malgré la calmie relative des derniers mois. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le groupe djihadiste malien Anne Sardine a affirmé aujourd'hui retenir 3 collaborateurs du comité international de la Croix-Rouge, enlevés la semaine dernière dans le nord-est du Mali. Le groupe réclame la libération d'un homme arrêté par la force française Barkhane en échange. On fait le point avec Nanit Talani.
Le CICR avait indiqué mardi qu'une de ses équipes avait été enlevée le 16 avril sans effusion de sang dans la région de Kidal, affirmant ignorer les raisons de cet incident. Il n'avait pas identifié de groupe ou de communauté retenant les 3 personnes. Ce matin, un responsable dans Sardine, Noureddine Ag Mohamed, a déclaré que son groupe détient les 3 humanitaires. En échange des otages, les ravisseurs réclament la libération de Miyaten Ag Mayaris, le guide des 3 travailleurs du CICR, arrêté par la force française Barkhane, traquant les djihadistes dans le Sahel. Interrogé par l'AFP sur cette revendication, une porte-parole du CICR à Genève, Claire Kaploum, a dit ne pas avoir reçu de revendication à ce stade. En Sardine, faisait partie des groupes alliés à Al-Qaïda qui ont contrôlé le vaste nord du Mali pendant près de 10 mois, entre 2012 et 2013.
En Côte d'Ivoire, la Cour suprême a rejeté ce jeudi le pourvoi en cassation de Simone Gbagbo, ouvrant définitivement la voie à son procès pour crime contre l'humanité. L'avocat qui assure la défense de l'ex-première dame ivoirienne, maître Rodrigue Dadjé, se dit profondément déçu d'une décision qu'il qualifie de politique.
J'attendais beaucoup mieux de la Cour suprême. J'attendais qu'elle soit la Cour suprême, la haute cour qui statue en droit. Malheureusement, sous la pression du pouvoir politique, elle a préféré rendre une décision politique. Je suis complètement déçu parce que c'est une décision qui va rester dans les archives de la Côte d'Ivoire et 20 ans, 30 ans après, on verra qu'une décision pareille a été rendue, mais en contradiction de la loi, complètement en contradiction de la loi.
Quelles sont les conséquences éventuelles de cette décision?
C'est l'ouverture des assises, c'est tout. Et l'ouverture des assises, excusez-moi, je sais à 100% que Mme Gbagbo va être condamnée. Parce que le pouvoir politique veut que Mme Gbagbo soit condamnée, elle sera condamnée. Mon rôle sera au cours de l'assise de démontrer à l'opinion nationale et internationale que Mme Gbagbo n'a rien à se reprocher et qu'il n'y a aucun élément qui l'accable. Après, Si la justice veut rendre une décision pour rendre service au pouvoir politique, ça c'est leur problème. S'ils veulent rentrer dans l'histoire en ayant été ceux qui rendent des décisions politiques, ben ils en seront responsables vis-à-vis de l'histoire. Mais au moins, Mme Gbagbo et nous aurons fait notre part de montrer qu'elle n'a rien à voir avec les crimes qu'on veut lui faire porter.
Maître Rodrigue Dadjé, joint à Abidjan par Eric Manirakiza.
Violence dans le nord-est du Nigeria. Des hommes armés suspectés d'appartenir au groupe islamiste Boko Haram ont attaqué le village de Zango dans l'état de Yobe dans la nuit de mardi à mercredi. Au moins 11 personnes ont été tuées d'après les témoignages récoltés par l'AFP. Les assaillants arrivés à cheval ont ouvert le feu sur les habitants et incendié le village.
L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU en visite au Tchad. Samantha Power s'est entretenue avec le président Idriss Déby Itno. Ils auraient échangé sur la grande amitié entre les peuples tchadiens et américains. La diplomate américaine dit avoir également discuté du renforcement du partenariat dans la lutte contre Boko Haram. Nous y consacrerons un magazine en seconde partie d'émission.
Violence xénophobe en Zambie. Le président Edgar Lungu dit avoir honte des émeutes anti-migrants qui ont touché la capitale, Lusaka, en début de semaine. Des Rwandais soupçonnés de crimes rituels par la population ont été pris à partie. Le président zambien assure que tous ces criminels seront traduits en justice et il appelle les ressortissants étrangers à regagner leur maison.
Conflit au Soudan du Sud, Riek Machar n'est toujours pas arrivé à Djouba. Il est encore en Éthiopie. Rappelons que le chef rebelle doit prendre part à un gouvernement d'union nationale aux côtés de son rival, le président Salva Kiir. En revanche, des membres de la délégation censés l'accompagner lors de son retour sont arrivés dans la capitale soudanaise. C'est ce qu'indique un des porte-parole de la rébellion.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, fin de la visite de Barack Obama en Arabie Saoudite, le président américain s'est employé à défendre, en dépit de tensions évidentes, une vision commune avec ses alliés du Golfe, tout en appelant ces derniers au dialogue avec leur rival chiite iranien. Le point avec John Linden.
Monsieur Obama a insisté sur la véritable unité existant entre particuliers dans la lutte engagée pour détruire le groupe État islamique qui représente une menace pour tous. Une nouvelle fois, le président américain a dénoncé les activités déstabilisatrices de Téhéran dans la région. Mais, sujet sensible pour les monarchies sunnites, il a aussi appelé au dialogue avec les forces les plus raisonnables de la République islamique afin de ne pas assister à une escalade dans les guerres par procuration à travers la région, en Irak, en Syrie ou encore au Yémen. Se défendant d'être naïf, M. Obama a mis en évidence l'accord sur le programme nucléaire iranien comme preuve d'un dialogue possible. Les pays du Conseil de coopération du Golfe ont peu apprécié l'ouverture américaine vers la puissance chiite, ainsi que les propos parfois très directs du président américain sur la nécessité de partager leur voisinage avec Téhéran.
Le médiateur de l'ONU pour la Syrie a déclaré aujourd'hui qu'il y avait des progrès modestes mais réels dans la livraison d'aide humanitaire dans ce pays ravagé par la guerre, en espérant que cela pourrait permettre de relancer les pourparlers de paix de Genève. Stéphane de Mistura a indiqué que plus de 560 000 personnes bloquées dans des zones assiégées ou difficiles d'accès avaient pu recevoir de l'aide depuis le début de l'année, dont plus de 100 000 au cours des deux dernières semaines.
L'armée russe a annoncé aujourd'hui avoir achevé le déminage du site antique de Palmyre, repris fin mars par l'armée syrienne aux combattants de l'organisation État islamique. Le commandant du génie militaire russe a annoncé la nouvelle au cours d'une vidéoconférence avec le président Vladimir Poutine, retransmise par la télévision russe. Des démineurs de la Russie avaient été dépêchés à Palmyre dès le début du mois d'avril.
En Turquie, la plus haute cour d'appel du pays a annulé la condamnation de 275 personnes en 2013 pour tentative de coup d'État. Des dizaines d'officiers de haut rang, dont un ancien chef d'état-major de l'armée, figuraient parmi les condamnés. La cour a invoqué le manque de preuves attestant de l'existence d'une organisation terroriste voulant renverser le gouvernement turc. La décision de la cour d'appel ouvre la voie à un nouveau procès, mais le dernier mot appartient au Premier ministre.
La France va organiser le 30 mai à Paris une réunion ministérielle internationale pour tenter de relancer le processus de paix israélo-palestinien. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault. Dans un entretien accordé à quatre journaux internationaux, le chef de la diplomatie française a précisé que cette réunion serait ouverte par le président François Hollande et qu'elle rassemblerait une vingtaine de pays, plus l'Union européenne et l'Organisation des Nations unies, mais pas les Israéliens et les Palestiniens.
Et puis, cette bien triste nouvelle, le chanteur américain Prince, l'un des plus grands musiciens pop de sa génération, est mort à l'âge de 57 ans. C'est ce qu'a annoncé le site d'information People TMZ, cité par l'AFP. Le shérif du comté où réside Prince a tweeté qu'une enquête était ouverte pour un décès à Paisley Park, la résidence de Prince, mais sans donner d'identité. Le chanteur avait été hospitalisé d'urgence vendredi pour une grippe, avait indiqué plusieurs médias.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiège.
Ouverture aujourd'hui du premier café Starbucks d'Afrique subsaharienne à Johannesburg en Afrique du Sud. La boutique propose des cafés du monde entier, dont 9 issus du continent africain, notamment du Kenya et du Burundi. La chaîne américaine compte ouvrir 12 à 15 magasins à travers le pays dans les deux prochaines années. Selon la société, les prix sont adaptés au marché local et pas liés au taux de change, une bonne nouvelle alors que le rand a récemment beaucoup chuté face au dollar. Selon nos confrères de Jeune Afrique, Monsanto, géant américain des OGM, mise sur le Nigeria où il propose déjà des pesticides et compte élargir son offre de produits vers les semences transgéniques. En difficulté au Burkina Faso où les sociétés cotonnières lui réclament plusieurs dizaines de millions d'euros pour compenser la mauvaise qualité de la fibre du coton transgénique, Monsanto a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 15 milliards de dollars en août 2015. Les fonds levés sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, se sont chiffrés à 635,8 milliards de francs CFA en 2015 contre 312,4 milliards de francs CFA un an auparavant. Et cette tendance à la hausse devrait se confirmer en 2016, selon le conseil de surveillance de la cellule de règlement des titres de l'Institut des missions.
Merci Anastasie Tudiège pour la Minute Éco.
L'info sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. La CAF a procédé au tirage au sort des barrages de la Coupe de la Confédération.
Et oui, le Stade malien éliminé tout récemment affrontera le FUS de Rabat. Le tout-puissant Mazembe, le tenant du titre de la Ligue des Champions, éliminé, vous le savez, par le WAC de Casablanca, se déplacera à nouveau en Afrique du Nord chez le Stade gabésien, le club tunisien Al Ahly de Tripoli contre les Égyptiens de Misr El Makassa. Et puis Béjaïa qui accueillera l'Espérance de Tunis. L'Étoile du Sahel contre le club gabonais du CF Mounana. Al Merrer du Soudan contre le CAC de Marrakech. Et puis les Young Africans de Tanzanie contre le Sagrada Esperanza, le club angolais. Enfin, les Mamelodi Sundowns qui affronteront le Medeama du Ghana. Les matchs allés, je vous le rappelle, Morgane, auront lieu du 6 au 8 mai prochain.
La flamme olympique ravivée.
Eh oui, la flamme des Jeux olympiques de Rio a été allumée conformément au rituel traditionnel sur le site grec d'Olympie, le berceau des Jeux de l'Antiquité et point de départ du relais à travers la Grèce depuis le Brésil. Ce rituel à l'antique qui entend établir un lien entre les époques avait été inauguré lors des Jeux hitlériens de Berlin en 1936 et représente la symbolique olympique de la flamme datant de l'Antiquité quand un feu demeurait allumé à Olympie tout au long de la compétition.
Playoff NBA, championnat de basket nord-américain.
Miami, grâce à la réussite de ses shooters et à deux paniers importants de l'expérimenté Dwayne Wade, en fin de match, a battu les Charlotte Hornets 115 à 103 et mène 2-0 lors de ce premier tour des playoffs. Le Heat ira donc à Charlotte disputer les deux prochains matchs avec une avance de 2 victoires. À Cleveland, dans une partie où sa star LeBron James a marqué 27 points, Cleveland va également emporter 107-90 face à Détroit et mène également la série 2-0 avant d'aller affronter les Pistons à domicile dans leur entre de Détroit. Dans la conférence Ouest, les Clippers de Los Angeles, avec un efficace Chris Paul 25 points, ont remporté une nouvelle et large victoire sur Portland, 102-80.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Morgane, le Tchad.
Et c'est toujours l'attente des résultats de la présidentielle. Une attente sur fond de rumeurs, de tensions et d'inquiétudes. De nombreux citoyens craignent une crise post-électorale. Mais dans le camp du pouvoir, une certaine ambiance de fête règne dans des bureaux de soutien du MPS, le parti au pouvoir. Bagessi Koura, Johan Djamena, Dobiane Asnar, président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme et délégué de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme auprès de la CEMAC.
Les villes à l'intérieur du pays sont complètement militarisées. Nous ne savons pas trop pourquoi. Les citoyens sont fouillés jusqu'à leurs sous-vêtements, comme si c'est un état de siège. Et puis par ailleurs, le gouvernement, comme la CENI et l'opposition qui communiquent peu, nous entendons par-ci par-là quelques communiqués laconiques, s'envoyant des flèches par-ci par-là entre l'opposition et le gouvernement. En tout cas, je peux dire... En termes clairs, qu'il y a des intercelles dans l'air.
Et on parle aussi d'une certaine ambiance de fête dans les bureaux de soutien, notamment du MPS, le parti au pouvoir.
Oui, tout à fait. Il y a eu une certaine effervescence dans les bureaux de vote du MPS. C'est comme si des gens, on est en train de... comme si on fête une victoire quelconque. Et c'est là, ce ne sont pas des choses qui peuvent être de nature à faciliter les relations avec une opposition qui est assez tranchante. Alors nous ne comprenons pas trop, mais je pense qu'il faut que nous appelons, nous, en tant que société civile, les uns les autres à la retenue et que la sagesse puisse primer et que ce soit l'intérêt général qui puisse prévaloir sur tout le reste.
Donc finalement, le délai de 2 semaines, c'est vraiment pas une bonne chose pour le Tchad?
Non, c'est pas une bonne chose parce qu'en fait, ça crée une sorte de psychose au sein de la population qui vit une tension qui est là et puis une psychose. Les gens ont peur de ce qui va arriver, comme si, en quelque sorte, nous regrettons que le délai soit assez long.
Alors, et qu'en est-il des militaires qu'on dit qui auraient été arrêtés? Est-ce qu'on en sait davantage?
Nous avons, au niveau des organisations des droits de l'homme, nous n'avons rien inventé. Ce sont des familles qui sont venues nous trouver pour nous dire voilà un peu les menaces que mon frère, mon cousin, mon père a subies. Et depuis lors, depuis les élections, ils ont disparu. On a enregistré plusieurs cas comme ça, au moins une vingtaine. Et il semble que le gouvernement va présenter dans les jours qui suivent ces personnes qui seraient parties pour des missions commandées.
Didiane Asngar, président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme et délégué de la FIDH auprès de la CEMAC. Il était joint à N'Djamena.
Dans Washington Forum cette semaine, montée de l'islamophobie dans le monde, focus sur les récentes déclarations aux États-Unis et en Europe. Le terrorisme, première cause de ce phénomène. Comment réagit la communauté musulmane en Afrique et ailleurs? Enjeux électoraux, amalgame, le monde se dirige-t-il vers une nouvelle guerre des religions? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez Tatiana Mosso dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Samantha Power, l'ambassadrice américaine à l'ONU, vient de boucler une visite au Cameroun avec des responsables du Pentagone dans le cadre de la lutte régionale contre le groupe islamiste armé Boko Haram. Une visite qui a malheureusement aussi été marquée par un accident qui a coûté la vie à un jeune Camerounais. Retour sur cette visite et sur cet incident regrettable avec le journaliste Gibaï Gatama, directeur de publication du journal L'Œil du Sahel, joint par John Lennon.
Il faut rappeler que c'est le plus haut responsable américain à avoir visité le Cameroun depuis quelques années. Donc le fait que ce soit l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU qui fait le déplacement montre que les Américains et les États-Unis ont à cœur la lutte contre le terrorisme et que le Cameroun est un pays au cœur de cette lutte.
Les États-Unis assistent le Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. Comment ces efforts-là sont-ils appréciés au niveau de Yaoundé?
Les Américains ont une base à Garoua. De là décollent les drones qui recueillent des informations, pas simplement pour les États-Unis, mais également pour le Cameroun. Ces renseignements sont très, très précieux pour pouvoir combattre Boko Haram. Les Américains également aident le Cameroun dans le braconnage parce qu'ils essaient de ramener la sécurité dans les parcs. Donc, comme vous le savez, dans le parc de Bouba Dida, beaucoup d'éléphants ont été tués il y a quelques mois. Donc, tous ces efforts conjugués font penser aux Camerounais que les États-Unis sont aux côtés du Cameroun dans cette lutte contre les terroristes.
Comment se comporte Boko Haram et face aux réactions des Camerounais, quoi?
Boko Haram essaie de s'ajuster. Ce ne sont pas des idiots. Ils ont montré à plusieurs reprises qu'ils étaient composés de gens intelligents, qu'ils essaient de s'adapter. Et là, il y a des mutations qui s'opèrent. Il y a rarement des attaques frontales, mais des embuscades. D'ailleurs, un officier camerounais est mort il y a deux jours, et deux autres soldats aussi, au cours d'une embuscade. Il y a la zone du lac Tchad, qui n'est toujours pas totalement sécurisée. Et il faut continuer la lutte, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas dire que c'est terminé, il faut encore faire des efforts. Et c'est en cela que l'appui des Américains, des partenaires camerounais sont essentiels.
Alors, pour revenir sur la visite de Mme Pawa, il reste qu'elle a été un peu émaillée par une actualité, j'allais dire un incident malheureux, c'est son cortège qui a tué un oui. jeune Camerounais. Comment cette affaire a été gérée, aussi bien par elle que par les populations ou la famille?
Mais il faut souligner quand même l'attitude de Mme Samantha Power, qui est une attitude qui a été très, très bien appréciée par les populations, parce qu'après l'incident, sur son chemin de retour, elle s'est arrêtée, elle a présenté les condoléances à la famille. C'est quelque chose de très rare au Cameroun, et que ça vient d'une étrangère a ému la population, et on espère que les autres dirigeants camerounais pourront s'en inspirer dans d'autres circonstances aussi.
Guy Baye Gatama, directeur de publication du journal L'Œil du Sahel.
La Cour constitutionnelle des Comores examine les recours déposés par les différents candidats à la présidentielle. Selon la commission électorale, l'ancien dirigeant Azali Assoumani a remporté le second tour avec 40,98% des voix contre près de 39,87% pour le vice-président sortant Mohamed Ali Soili. Les accusations de fraude ont fusé de toutes parts. Pour des précisions, Timothée Donongmaï a joint Ali Madi, directeur du journal Caribou Mag, à Moroni.
Ce sont des recours qui portent sur des demandes d'annulation de certains bureaux de vote qui sont soupçonnés d'irrégularité. Et puis, il y a aussi certains bureaux, certaines localités qui n'ont pas pu voter le 10 avril. Donc, le camp du pouvoir qui est donné perdant par les résultats provisoires de la commission électorale indépendante ont saisi la Cour pour tenter d'obtenir un partiel au niveau donc, de ces localités et également de tenter de faire annuler certains bureaux qui pourraient favoriser leur candidature.
Le vainqueur, Azali Assoumani, lui aussi réclame l'annulation des résultats d'un certain nombre de bureaux de vote.
C'est un jeu, je dirais, à la comorienne. Pourquoi ? Parce que en fait, il y a toujours dans les villes et villages où des candidats sont originaires qu'il y ait parfois des bourrages durs. On fait voter les morts parfois, on fait voter les gens qui ne sont pas là. C'est un jeu, mais très régulièrement, ça se passe comme ça. Donc, chacun essaie d'annuler le village de son concurrent parce que ça peut faire quelque chose pour lui. La Cour n'a jamais tenu compte des petites revendications comme ça, parce que sinon, c'est tout le scrutin qui risque d'être annulé.
Il faut dire que le score très serré entre les deux candidats au second tour laissait un peu présager cette sorte d'empoignade.
Il y a 2200 voix, un petit peu moins de différence. Donc, c'est vrai que c'est très serré. C'est très important de pouvoir faire annuler un seul bureau. Ça peut faire basculer une situation. Mais comme je le dis, des plaintes qui portent sur des gens qui ont voté alors qu'ils sont absents, en général, la Cour ne tient pas compte parce que de toute façon, le procès-verbal sorti du bureau prouve que le scrutin a eu lieu dans des conditions normales. Donc du coup, ça se passe généralement comme ça. Donc par contre, si il y a des PV qui montrent des anomalies graves, là on peut imaginer que la Cour peut éventuellement éliminer des bureaux comme ça.
Ali Madi, directeur du journal Caribou Mag à Moroni, aux Comores.
Ici aux États-Unis, pour la première fois, une femme noire, l'abolitionniste et ancienne esclave Harriet Tubman, va figurer sur le billet de $20. Qui était cette femme noire décédée en 1913 après avoir passé sa vie à essayer de sauver des esclaves? Idris Fall a obtenu l'éclairage de Jane Maddox Tungara, professeure d'histoire à Howard University, ici même à Washington.
C'était une femme qui est née en esclavage. Elle a pu échapper. Elle est devenue une de nos plus grandes femmes de résistance dans l'histoire américaine. Elle est devenue une abolitionniste. Elle est rentrée plusieurs fois dans les zones de l'esclavage pour amener les gens suivant les étoiles pour partir vers le nord, même vers le Canada. Vous avez entendu parler certainement du chemin de fer par lequel les gens s'arrêtaient par-ci, par-là, hébergés souvent par les Quakers, protestants religieux qui étaient contre l'esclavage. Les gens étaient hébergés dans le sous-sol souvent de ces maisons petit à petit. Ils s'échappaient pour aller vers le nord. Il n'y avait plus de l'esclavage.
Mais c'était un travail risqué, non?
Très risqué, mais justement, elle était très humaine. Et puis aussi, encore, elle était malade parce que souvent, elle tombait en syncope. Tout le monde savait, les gens attendaient et puis la protégeaient jusqu'à ce qu'elle se réveillait et puis continuait le chemin. C'est parce qu'elle a été battue étant enfant. Elle a reçu des blessures à la crâne et c'est ça qui faisait ces épisodes de sommeil où elle tombait en syncope. Malgré tout ça, elle a continué. C'était une femme chrétienne dévouée. On l'a surnommée la Moïse. Elle n'a jamais perdu, disons, un de ses charges qui partait avec elle vers le nord, vers la liberté.
Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de voir que le trésor américain va mettre son portée sur le billet de $20?
Mais là, c'est extraordinaire. Et pourquoi? Parce que la personne qui remplace Jackson était un président des États-Unis, était un esclavagiste. Là, voilà maintenant qu'il est remplacé par une femme qui était née en esclavage et qui a participé à la libération de plusieurs, et en plus, qui a assisté l'armée de l'Union, l'armée du Nord, pendant la guerre civile. Et voilà maintenant son effigie qui se trouve sur les $20. Tout le monde ici est très fier, vraiment encouragé par cet acte. Ça ne s'est pas passé facilement, parce qu'il n'y avait pas de femmes sur nos billets. Il n'y avait pas de femmes du tout. Et puis maintenant, pas seulement une femme, mais une femme abolitionniste, noire, libérateur. Vraiment, ça nous fait vraiment la fierté.
Jane Maddox Tungara, professeure d'histoire à Howard University, ici à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnot a assuré la mise en onde avec l'assistance technique de Nachwan Kale à la console. À la présentation, Morgane Diayek et Chérubin Gabi Dorsil.
Le monde aujourd'hui, on maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM,
92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.